BPCO, une maladie en constante progression. Article de Julie Devilliers dans le Kiné Actualité du jeudi 10 novembre 2011. À l'approche de la 10e journée mondiale contre la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, le 16 novembre prochain, le Kiné Actualité revient sur cette maladie respiratoire chronique en constante progression qui impacte la qualité de vie des patients à tous les niveaux dès son premier stade. Acteurs importants de son traitement, les masseurs kinésithérapeutes interviennent dans les programmes de réentraînement à l'exercice, le désencombrement bronchique et l'éducation thérapeutique. La BPCO touche dans l'Hexagone plus de 3,5 millions de personnes, dont deux tiers seulement sont diagnostiquées. Chaque année, elle tue 16 000 Français et sera en 2020 la troisième cause de mortalité dans le monde. En France, les répercussions sociales de cette pathologie sont considérables sur les patients, leurs familles, les employeurs et la société. La BPCO serait en effet responsable de 11% des invalidités, 8% des arrêts de travail et 11% des hospitalisations. Tous ces chiffres évoquent très clairement les enjeux d'un dépistage précoce et d'une lutte contre son évolution. Dans près de 90% des cas, le tabagisme actif et passif est à l'origine de la BPCO. L'exposition professionnelle à des polluants ou, plus rare, un déficit en alpha-1 antitrypsine constitue également des causes d'apparition de cette pathologie. Ainsi, le sevrage tabagique et les mesures de protection individuelle et collective mises en place dans les cas de risque professionnel avéré sont au cœur de la lutte contre l'évolution de la maladie. L'entrée lente dans la BPCO engendre souvent un retard de diagnostic. Les maladies doivent être sensibilisées aux signes d'alerte et ne pas les banaliser. Toux quotidienne, crachat, dyspnée, fatigue, sommeil perturbé, bronchite à répétition, etc. De même façon, les kinésithérapeutes en charge de malades non diagnostiqués lors de diverses prescriptions ont un rôle dans ce dépistage. Profil d'une maladie sournoise. La BPCO est caractérisée par une limitation progressive des débits aériens expiratoires, peu ou pas réversible après la prise de bronchodilatateurs et liée à une inflammation chronique des bronches dont le calibre se rétrécit peu à peu. Elle n'est pas détectée et si elle n'est pas détectée et traitée à temps, elle peut évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique, IRC. C'est-à-dire une incapacité permanente pour les poumons d'assurer des échanges gazeux normaux. La maladie débute souvent par une toux chronique, avec production de crachats sans altération du souffle. GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, propose une classification en quatre stades de la maladie, unanimement employée par les équipes médicales. Au stade 1 et 2, si elle n'est pas traitée, la BPCO évolue vers un rétrécissement progressif et en partie irréversible du calibre des bronches. Le passage de l'air est freiné, ce qui cause en plus un essoufflement à l'effort, de plus en plus handicapant. L'oxygénation du sang est perturbée. Le patient peut également développer un emphysème respiratoire, distension anormale, permanente et diffuse des espaces aériens situés au-delà de la bronchiole terminale. Au stade 3 de la maladie, le calibre des bronches est très rétréci et le patient présente une dyspnée pour des efforts minimes, voire même au repos. Il est en état de handicap respiratoire. Jusqu'à ce stade, la maladie peut dans certains cas évoluer à bas bruit sans symptômes manifestes. Le stade 4 se caractérise par une IRC. Le patient ne peut pas assurer pleinement l'oxygénation de son organisme. L'inefficacité de sa respiration l'oblige donc à recevoir de l'oxygène et retentit sur le fonctionnement de son cœur. À ce stade, deux tiers des personnes sont placées sous oxygénothérapie au minimum 15 heures par jour. À tous les stades de la maladie, l'état du patient peut décliner brutalement à l'occasion d'exacerbations et nécessiter une hospitalisation. Ces aggravations aiguës et persistantes de l'état jusqu'ici stable du malade sont le plus souvent dues à des infections des bronches. Outils de diagnostic. L'exploration fonctionnelle respiratoire ou spirométrie est l'outil principal de diagnostic de la BPCO. Elle permet de déterminer la maladie et son stade d'évolution. Cet examen consiste en une exploration du souffle qui vise à mesurer le degré d'obstruction des bronches et les volumes pulmonaires. Le patient souffle dans un spiromètre qui mesure alors son VEMS, volume expiratoire maximum par seconde. Il s'agit du volume d'air expiré en une seconde au cours d'une expiration forcée effectuée après une inspiration maximale. Une BPCO est évoquée lorsque les débits aériens sont diminués de façon chronique à hauteur d'un VEMS inférieur à 80% de la norme, comparaison avec les mesures d'un adulte en bonne santé respiratoire, de même sexe, âge, taille et groupe ethnique que le patient. Le diagnostic de la BPCO repose sur le déclin de ce VEMS et sur un rapport de Tiffno, VEMS sur la capacité vitale totale, inférieur à 70% persistant après la prise de bronchodilatateurs inhalés. Le suivi de l'évolution de la maladie s'appuie ensuite sur les valeurs déterminées par la classification de Gold. Donc la classification de Gold consiste alors le stade 1 débutant. Il y a un rapport VEMS sur CV est inférieur à 70%. Le VEMS est supérieur ou égal à 80% et c'est symptomatique ou non. Stade 2 modéré. VEMS sur CV inférieur à 70%. 50% inférieur ou égal au VEMS. Qui est inférieur à 80%. Le stade 3 sévère, VEMS sur CV inférieur à 70%. 30% inférieur au VEMS qui est inférieur à 50%. Et le stade 4 qui est très sévère, VEMS sur CV inférieur à 70%. VEMS inférieur à 30% ou VEMS inférieur à 50% de la valeur prédite avec insuffisance chronique respiratoire. La mesure des gaz du sang permet de déterminer les taux d'O2 et de CO2 dans le sang. Chez un patient atteint de BPCO, elle traduit une hypoxie et une hypercapnie. Le test de marche de 6 minutes apprécie la plus longue distance parcourue en 6 minutes par le patient, équipé d'un saturomètre sous oxygénothérapie selon les cas, en marchant, et précise le retentissement de la BPCO sur la capacité à faire des efforts. Enfin, une radiothérapie du thorax et dans certains cas une fibroscopie bronchique permet d'écarter des diagnostics différentiels. Traitement. Il n'existe pas de traitement pour guérir de la BPCO. En revanche, il existe, après réalisation d'un bilan par un pneumologue, des moyens pour freiner son évolution. Le sevrage tabagique constitue l'objectif majeur de la prise en charge. Il représente l'unique moyen pour stopper la progression de l'obstruction bronchique et retarder l'apparition de l'IRC. Des bronchodilatateurs sont prescrits ensuite pour soulager la dyspnée, plainte principale des patients chroniques. Les corticoïdes par voie inhalée, parfois orale, ne sont pas systématiques et sont réservés au stade sévère de la maladie. Ils permettent de réduire l'inflammation des bronches, en outre pour prévenir les infections. Les malades sont vaccinés contre le virus de la grippe A et les infections à pneumocoque. Lorsque le patient est en situation d'insuffisance respiratoire, une oxygénothérapie est mise en place. Dans des cas très particuliers de complications emphysémateuses, la chirurgie peut être envisagée. La transplantation pulmonaire reste quant à elle exceptionnelle. Les kinésithérapeutes interviennent dans les cas d'exacerbation et de poussée de la maladie avec des techniques de drainage bronchique. Ils participent également au programme de réhabilitation respiratoire. Ces programmes multidisciplinaires qui ont fait la preuve de leur efficacité comporte un réentraînement à l'exercice, un apprentissage de la maîtrise du souffle, rééducation respiratoire et une éducation thérapeutique. Ils sont associés à une prise en charge plus globale de la maladie, aide au sevrage tabagique, soutien psychologique et social, suivi diététique. Réhabilitation respiratoire. Pierre angulaire du traitement d'un patient BPCO, la réhabilitation respiratoire vise à optimiser le fonctionnement des muscles périphériques, améliorer le comportement de santé des malades, réduire la dyspnée, améliorer la tolérance à l'effort, réduire les épisodes d'exacerbation. Le programme est personnalisé après réalisation par chaque professionnel impliqué d'un bilan précis. Pilier de cette réhabilitation, le réentraînement à l'effort s'étale sur 4 à 6 semaines en centre, 25 séances en libéral à raison de 2 ou 3 séances par semaine. Un programme de maintien des acquis est ensuite mis en place sur un an. Progressivement, le patient réalise les séances seul à son domicile sous contrôle régulier du soignant. Le protocole standard fixe 6 semaines pour atteindre 60% de la puissance maximale. Cette prise en charge peut se faire à l'hôpital, dans des services spécialisés, en cabinet privé ou au domicile du patient. En dehors du secteur hospitalier, des réseaux de santé dédiés aux maladies respiratoires existent pour organiser les soins et coordonner les professionnels de santé autour du patient. Le réentraînement à l'effort se réalise généralement sur cycloergomètre ou tapis de marche et par le biais d'exercices spécifiques et adaptés. Il vise le renforcement musculaire en endurance et en résistance. Le travail musculaire segmentaire est important. Il concerne les membres supérieurs et inférieurs, mais aussi les abdominaux et les dorsaux. L'électrostimulation a démontré son intérêt, en particulier pour les stades sévères de la maladie. Les muscles respiratoires sont également réentraînés, améliorant ainsi l'endurance inspiratoire, la dyspnée et la force. Plusieurs professions se partagent la réalisation de ces programmes de réentraînement à l'effort. Faute de s'être investi en nombre dans la réalisation de ces programmes, les kinésithérapeutes ont malheureusement perdu depuis plusieurs années l'exclusivité de ce secteur qu'ils partagent aujourd'hui avec notamment les éducateurs sportifs, autre pilier de la réhabilitation respiratoire. L'éducation thérapeutique permet au patient de mieux connaître sa maladie et ses retentissements sur son organisme, mieux gérer et comprendre ses traitements, son souffle, d'adapter son cadre de vie. Elle réduit le recours aux soins et constitue une technique efficace sur le long terme. Le kinésithérapeute participe à cette éducation thérapeutique, notamment dans la gestion quotidienne de l'énergie du patient, apprentissage de posture dyspnéisante, adaptation de l'environnement, répartition des activités, apprentissage de la respiration dirigée abdominodiaphragmatique. Des formations universitaires sont accessibles pour faire de lui également un acteur du sevrage tabagique. Un programme de réhabilitation respiratoire bien conduit diminue de 50% la fréquence et la durée d'hospitalisation d'un patient BPCO. Pourtant, malgré les recommandations et les études démontrant l'efficacité de ces programmes, seuls 10% des patients français, selon une étude récente, reçoivent un tel traitement, 6,4% en stade 2 sur l'échelle de Gold, 9,6% en stade 3 et 20,6% en stade 4. Les efforts actuels visent à élargir la couverture de ces programmes en favorisant la formation et l'information des professionnels de santé, la création de nouveaux réseaux de santé et de centres spécialisés.